Sur KBFM, le groupe Moriarty que nous avons rencontré donc lors du dernier festival A Rock 2012 à Saint-Brieuc. La première question lors de la conférence de presse était celle-ci. Eh bien, le film Sur la route vient juste de sortir, hein, faisant allusion notamment à Dean Moriarty. Eh bien, on a demandé au groupe s'il avait donc déjà vu ce film, une adaptation du roman de Jacques Kerouac.
Alors non, nous n'avons pas vu le film. Nous étions en tournée. Et voilà, et on, mais par contre, on va aller le voir. Ouais. Je pense peut-être tous ensemble, ça sera l'occasion d'une sortie tous ensemble.
On le sait, hein, votre principale influence est la Beat Generation.
Hein. Oh ben on était tout bébé hein, quand c'était la Beat Generation.
On en a lu, on a lu Sur la route, donc le nom du groupe vient de ce roman de Kerouac, donc On the Road. Moi, j'étais pas dans le groupe à l'époque, mais il se trouve qu'on se passe les bouquins qu'on aime bien. Que oui, ça fait partie des choses qu'on a lues et qu'on a traversées. Entre autres, surtout sur une forme d'écriture qui est assez inspirante et dans une énergie dans l'écriture qui rompt un peu avec la littérature qui est avant. Aussi dans un mouvement qui est quand même assez révolutionnaire pour l'époque dans laquelle il s'inscrit, aux États-Unis dans les années 50. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre que de ce point de vue-là, ça nous inspire. Après, moi, je ne suis pas forcément inspirée aujourd'hui par les thèmes abordés dans la Beat Generation, plus plutôt sur la forme d'écriture, quelque chose d'un l'écriture dans le jet.
Nos premiers textes étaient fortement influencés, ouais, sans doute, par les poètes Beat et par Kerouac. Arthur, notre guitariste, qui était le premier à avoir vraiment commencé l'écriture et qui se reconnectait sans doute avec sa part américaine, avec sa famille américaine, par l'écriture. a été très libéré, je pense, par la prose poétique de Kerouac. Et on utilise toujours ça de temps en temps, même si on essaye d'évoluer aussi, parce qu'il n'y a pas vraiment de raison de se laisser enfermer dans quelque chose, un mouvement passé comme ça des années 50. C'est une inspiration parmi d'autres. Parfois, ça va être les cadavres exquis surréalistes qui servent de déclencheur. Et puis là, voilà, on passe à une autre génération. Parfois, ça va être des textes plus absurdes, plus contemporains.
Et puis parfois, c'est donc des textes d'écriture automatique. C'est aussi des expériences... comme faisait Desnos, de se réveiller au milieu de la nuit avec un réveil et d'écrire ce qui vous passe par la tête. Voilà. Bon, c'est des expériences, ça reste des expériences. Ça ne donne pas toujours lieu à des chansons.
Et le geste ou plutôt l'énergie collective, ce qui est, je pense, je ne sais pas si on peut vraiment parler de geste créatif. Non, c'est plutôt intuitif ce qu'on fait. C'est pas tant, on ne se dit pas tiens, on va faire ce geste-là. Tout ce qu'on sait, c'est que quand écrire une chanson, un texte ou la jouer, c'est toujours de chercher quelque chose d'inattendu dedans, qui reste toujours en mouvement ou un peu insaisissable. Même quand une chanson est écrite, qu'on l'a jouée depuis 6 mois, il y a quelqu'un toujours dans le groupe qui trouve moyen de dire non, c'est en train de se scléroser, là, il faut la détruire et la reconstruire pour que tout soit toujours en mouvement.
Les textes ne sont pas forcément là en premier, en fait. Parfois, la musique existe avant les textes. Et parfois, la musique inspire des histoires ou des ambiances qui nous font écrire des textes.
Souvent, c'est très filmique. Ouais. Je crois que la musique, quand on compose de manière improvisée, c'est-à-dire que c'est un collectif qui fait tourner des mélodies et des atmosphères ensemble, il y a quelque chose qui se déclenche, qui est un peu de l'ordre de la réminiscence, où chacun part dans un monde fictif ou... qu'il a connu il y a très longtemps, une sorte de vie antérieure comme ça. Et c'est comme un film qui commence à se dérouler sous les yeux de chacun par la musique. Et peut-être que la musique a plus d'ouverture, c'est-à-dire que chacun se fait son film. Parfois, une chanson qu'on joue depuis longtemps, il y en a un qui part à Chicago dans les années 30 par un jour de pluie, alors que l'autre est parti dans le désert australien par un plein soleil. Et c'est pas du tout les mêmes atmosphères.
Alors Moriarty, est-ce que votre musique est liée à vos origines ?
D'une certaine manière, oui. Mais quelles origines ? Est-ce que ça peut être des vies antérieures aussi ? Ou ça peut être des origines ? Oui. On ne peut pas nier qu'on a tous un rapport assez fort avec la musique américaine. Et parce que beaucoup d'entre nous dans ce groupe ont des racines aux États-Unis. Mais il y en a d'autres, en fait. Il y a aussi des racines suisses ou des racines irlandaises. Ou, voilà, c'est un peu partout. Et finalement, on est plus on se retrouve justement dans quelque chose justement plus du déracinement que dans la recherche de l'origine, en fait.
Alors, vous avez connu le succès il y a quelques années avec le single Jimmy. Qui est Jimmy, en fait ?
Il faudrait le demander à son auteur, qui est Arthur, notre guitariste. Et voilà, chacun l'interprète différemment. Et pour moi, c'est exactement ça. C'est une sorte d'archétype du déraciné ou de l'exilé. C'est-à-dire celui qui se réinvente une vie ailleurs, à des milliers de kilomètres de l'endroit dont il est originaire ou d'où sa famille, voilà, une sorte de terreau ou quelque chose comme ça, et qui est plutôt dans la réinvention, dans l'errance parfois, mais qui est toujours appelé quelque part par ces sortes de racines qu'il a laissées assez loin. Et dans l'exil, il y a une histoire qui se raconte qui n'a rien à voir avec celle de gens qui appartiennent à une nation précise, à un territoire précis, à un pays bien cerné par des frontières, mais plutôt par des sortes d'hybrides comme ça qui voyagent. Mais au départ, c'est une comptine. Jimmy, c'est presque une parodie, en fait. C'était écrit comme une chanson pour enfants, une sorte de berceuse qu'on chante traditionnellement aux enfants pour s'endormir, mais qui parle de quelque chose qui n'est pas forcément enfantin.
Et puis en plus, ce qui est amusant, c'est la vision qu'ont les anglo-saxons quand ils l'écoutent. C'est-à-dire que quand on la chante en France, les gens n'ont pas la même appréhension du texte. Et du coup, par exemple, la première fois qu'on l'a joué en Irlande, ce qui était amusant, c'est que les gens vraiment rigolaient. Oui, parce qu'il y a pas mal de jeux de mots, et puis... Le texte est assez absurde, en fait, et ça les fait rire.
Bah, dans les pays anglo-saxons, c'est une chanson comique, tout simplement. D'accord. Alors que dans les autres pays, c'est une chanson mélancolique, donc on ne sait plus très bien sur quel pied danser.
Ça veut dire que votre public ne comprend pas vos textes ?
D'une certaine manière, mais je trouve justement ce qu'on parlait entre texte et musique, ce qui est intéressant, c'est peut-être aussi quand vous attrapez quelques morceaux que vous comprenez, Et vous n'êtes pas obligé non plus de comprendre mot à mot toute une histoire, vous faites votre propre histoire. Voilà, vous faites votre propre film. C'est un peu, je crois que c'est un peu ce qu'on a essayé de faire, en tout cas en France, et qui marche assez bien. J'ai l'impression que les gens se font leur propre histoire à partir de ce qu'ils entendent des chansons.
Alors Moriarty, allez-vous chanter un jour en français ?
Bah écoutez, jeune homme, c'est une question très intéressante, un peu provocante, certes. En ce moment, on chante une chanson en français sur scène. Bon, un jour, vous nous verrez peut-être en concert, mais on joue en ce moment une chanson en français.
Qui s'appelle Belle, justement, qui est une chanson cajun, en fait.
Allez.
C'est une forme créole.
Non, les textes de ce nouvel album sont plus vivants, plus joyeux que le premier album. C'est une interprétation. J'ai l'impression que vous avez plus capté, apprivoisé vos démons, parce qu'on peut dire ça comme ça.
Je dirais, en fait, c'est assez difficile à le dire comme ça. Je dirais que le premier album était plus, peut-être, avait quelque chose de plus mélancolique, de plus identitaire. En fait, je crois qu'on asseyait un peu notre identité musicale aussi. Et le deuxième album, il est un peu plus dans quelque chose de noir et de qui raconte comment dire. Chaque chanson raconte une histoire vécue ou inventée. Et je dirais pas qu'il est plus, il est quand même pas plus joyeux.
Plus vivant peut-être, c'est peut-être la musicalité
vivant,
qui fait.
Mais il est quand même très très nocturne.
En fait, ce qui est raconté dedans est beaucoup plus macabre en fait. Il y a beaucoup plus de meurtres dans le deuxième album que dans le premier.
Il y en a presque un par chanson.
Ça fait beaucoup de morts à la fin du film.
Voilà, c'était donc des extraits de la conférence de presse donnée par le groupe Moriarty lors du dernier festival A-Rock à Saint-Brieuc. On va remercier notre animateur Jérémy d'avoir été également au rendez-vous. Allez, on écoute Moriarty et le nouveau single I Will Do sur KBFM.
Around.